J'aimerais maintenant rentrer dans le vif du sujet, là, qui est la prédication. La prédication est tellement importante hein, au sein de nos rassemblements, parce que c'est là où le Seigneur nous parle. C'est même tellement important que c'est une question de vie ou de mort. Parce qu'à un moment donné, il y a des décisions qui doivent être prises pour que voir la gloire de Dieu, essayer d'aller plus loin. Et on s'aperçoit que quand on donne notre vie au Seigneur, avec le temps, il se peut, et ça arrive, c'est la nature humaine, qu'on ait besoin de vivre des temps de rafraîchissement. Et c'est justement le thème de la prédication de ce matin, vivre des temps de rafraîchissement. Alléluia. Pour cela, on va lire deux versets d'introduction dans le livre des Actes, chapitre 3, versets 19 à 20. Actes 3, 19 à 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus. Amen. Alors ici, on voit le contexte de ces paroles, c'est la naissance de l'Église, des hommes et des femmes ont été remplis du Saint-Esprit. Je vois Elodie, et là, d'un seul coup, j'ai un signal d'alerte qui s'allume. C'est parce qu'en fait, il m'a été demandé de prêcher lentement, un peu plus lentement que d'habitude, parce qu'il y a une personne nouvelle qui est là. Donc, elle est en train de traduire donc, du français à l'anglais. Alors, pour moi, c'est un exercice qui est difficile, hein, parce que essayer de se discipliner. Mais par la grâce de Dieu, voilà, que l'essentiel puisse être dit, afin que notre sœur puisse comprendre tout ce qu'on est en train de partager ce matin. Le contexte, donc, Église naissante avec une action du Saint-Esprit. Il y a eu l'effusion du Saint-Esprit qui avait été promis dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit. Pourquoi faire ? Pour être des témoins et aller, donc, Jérusalem, la Judée, voilà. Et c'est ce que le Seigneur a fait à un moment donné. Donc, acte 2, il déverse de son esprit. Et puis, des hommes, comme l'apôtre Pierre, qui à un moment donné va renier Jésus. Et donc, et il va s'éloigner du Seigneur, il va être rappelé par le Seigneur. Cet homme va être donc baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, et il va venir avec un message percutant. Moi, je trouve qu'il faut pouvoir le dire, alors qu'au tout début, il y avait de la crainte dans leur cœur, il vient avec ce message, « Repentez-vous donc et convertissez-vous. » Alors pour nous, quand on lit la parole, on peut se dire, « Mais voilà, c'est un message tout à fait classique, mais à ce moment-là, le simple fait de dire « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés », c'était une abomination et ils risquaient leur vie. Mais remplis du Saint-Esprit, ils préfèrent être obéissants à Dieu plutôt qu'aux hommes, même au péril de leur vie. Là, ici, on voit des hommes consacrés totalement au Seigneur. Et c'est la seconde partie donc, le verset 20, où il est dit « Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part de notre Seigneur. » Ici, nous découvrons qu'il y a en fait l'opportunité de vivre des temps de rafraîchissement. Nous avons besoin d'être rafraîchis donc continuellement et qui vient de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Ce même verset 20, dans la version parole vivante, nous dit « Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors, le Seigneur vous accordera une ère de renouvellement, de repos et de bonheur. Finalement, tout ce dont nous avons besoin pour continuer la marche, du repos. » Parce que au niveau de, on est fatigué par les soucis, les tracas, on va le voir, on va le développer. Et puis on a besoin de venir près du Seigneur pour vivre des temps de repos et des temps de repos spirituels, mais également des temps de bonheur. Qui croit ce matin que le bonheur se trouve que dans le Seigneur Jésus? Alléluia, on le croit tous de notre cœur. Hein. D'ailleurs, le psalmiste, le psaume 4, il va en fait lancer ce cri, il va dire « Mais qui me fera voir le bonheur ?» Nous, nous l'avons découvert. Le bonheur vient que de la part du Seigneur. Et on bénit le Seigneur parce que, oui, le bonheur est près de lui. Il veut nous accorder une ère nouvelle de rafraîchissement. Et dans la marche chrétienne, nous avons besoin d'être continuellement rafraîchis, que nous soyons trouvés frais. Amen. Et donc, j'aimerais ce matin vous parler de ce que Dieu a en réserve pour nous. Surtout, n'hésitez pas, quand il vous semble que vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de partager, de lancer un amen. Ce n'est pas simplement pour encourager celui qui apporte la parole, même si ça encourage quand même, mais c'est également pour dire « oui, c'est vrai ». Je le déclare avec le frère, ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité. C'est ça, amen. Hein?
Amen.
Donc, voilà, amen. Gloire au Seigneur. Donc, j'aimerais donc ce matin vous parler de ce que Dieu a en réserve pour nous. Nos vies sont souvent malmenées. Souvent, on est ballotté par les soucis, les épreuves, les conflits de différentes manières. Conflits au travail, les conflits familiaux, et il y en a beaucoup. Les combats. Les luttes de chaque jour. Mais ça, c'est le lot de chacun d'entre nous. Quand nous nous sommes engagés à suivre le Seigneur nous a dit, ben en fait, vous aurez des tribulations. Alors, comme message encourageant, quelqu'un pourrait se dire, ben, on aurait pu faire autrement. Mais oui, c'est un message encourageant. Vous aurez des tribulations. Mais voilà, prenez courage. Parce que moi, j'ai vaincu le monde. Et ce qu'on fait au Seigneur, ce qu'on a fait au Seigneur, mais ça doit nous arriver parce qu'en fait, une nouvelle mentalité, un nouvel état d'esprit nous a été donné de la part de notre Seigneur. Alléluia. Et désormais, ben, nous marchons à contre-courant de ce que le monde veut nous enseigner. Et donc, là, il y a un conflit. Il y a un conflit qui s'oppose, mais au travers de ce que nous pouvons traverser, donc les épreuves, les conflits, les combats, le Seigneur nous dit qu'on a besoin d'être ressourcés, on a besoin d'être rafraîchis, parce que Dieu ne veut pas nous laisser dans des situations où nous sommes en peine. Le Seigneur veut donc venir proche de nous pour nous relever et nous encourager. C'est arrivé hein, à des hommes de Dieu, des hommes auxquels on aimerait ressembler. Hein. Enfin, en tout cas, pour ma part, quand je lis la parole de Dieu, j'ai dit « Seigneur, je ne suis pas arrivé au quart de la moitié de ce que ces hommes avaient comme relation avec toi ». Mais ces hommes-là, ces mêmes hommes, à un moment donné, ils ont eu besoin d'être encouragés, besoin d'être rafraîchis dans leur relation avec le Seigneur. Alors oui, ce que nous voulons vivre ce matin et puis dans les jours à venir, c'est des temps pour être ressourcés, des temps pour être encouragés, des temps pour être restaurés, alléluia, où tous nos problèmes, évidemment, ne seront pas réglés. Mais nous voulons permettre au Seigneur de pouvoir repartir, prendre, donc, comme dit l'expression, le taureau par les cornes, et à un moment donné, et ça arrive, qu'on se retrouve arrêté dans notre marche et dans notre progression, et on a besoin d'un encouragement pour repartir. Ces temps peuvent être appréciés et doivent suivre des principes qui sont simples. Tout d'abord, les temps de rafraîchissement, pour les apprécier, il faut en fait en avoir la conscience que nous en avons besoin. Si on se dit « mais moi j'ai besoin de rien », ça va être difficile pour vivre des temps de rafraîchissement. Et peut-être que ce matin, au travers de ce partage, on est en face de la parole et de se dire ben, « j'ai besoin d'être rafraîchi ». J'ai besoin d'être encore encouragé de la part du Seigneur. Donc, en exprimer le besoin, en disant « Seigneur, j'ai besoin que tu viennes rafraîchir encore ma vie. » Alléluia. Le secret pour ces temps de rafraîchissement viennent, ça peut paraître paradoxal, ils viennent quand nous sommes en action, quand nous décidons de finalement nous lever et de dire je veux me lever, j'irai vers le Seigneur, je dirai, certains hommes l'ont dit, rappelez-vous de ce Bartimée. Il y a quelqu'un qui a déjà entendu prêcher dans une réunion d'évangélisation sur Bartimée? Une fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, ça n'est pas l'expérience. En fait, ce Bartimée, on se sert de l'exemple qui est dans la parole de Dieu. Mais Bartimée, lui, il a vécu des moments de rafraîchissement, mais il y avait une part qui l'incombait. C'est qu'à un moment donné, il a fallu que lui-même se lève, lui-même puisse crier à Dieu, « Fils de David, aie pitié de moi ». Là, encore une fois, ça peut sembler anodin, en disant « Fils de David, aie pitié de moi ». Mais en fait, en disant cela, il était en train de dire, celui qui est en train de passer, ce Jésus-là, en fait, c'est le Fils de Dieu, celui qui a été toujours promis de toute éternité. Alors, Jésus, aie pitié de moi. Quelle belle prière, hein. Et que chacun d'entre nous puisse dire, Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. Tant que Bartimée donc, est resté sur le bord de son chemin sans rien dire, il n'a rien reçu. Il y aura toujours une part qui nous incombe à pouvoir crier au Seigneur. Et c'est quand il s'est mis en action que sa vie a changé. Je pense qu'une fois qu'il a reçu sa guérison, donc cet homme était aveugle, il a dû se passer quelque chose d'extraordinaire, il devait avoir de la joie. Lui-même devait sauter jusqu'au plafond, parce que ce que le Seigneur fait dans une vie, quand on le réalise, ben ça va procurer en chacun d'entre nous de la joie. Alléluia. Quand on parle de rafraîchissement, on parle de la présence de Dieu. Cette présence de Dieu, elle vient dans notre vie pour nous rafraîchir. C'est le rafraîchissement que nous donne Jésus. Il y a encore une fois cet épisode qui est extraordinaire, hein, avec un message tellement percutant de la part du Seigneur Jésus-Christ qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 37. Jean 7, 37. Pour la plupart, nous connaissons ces versets, hein, mais c'est bien de laisser la parole de Dieu nous parler ce matin et nous révéler ce que le Seigneur a dit à ce moment-là. Et également, hein, ça ne nous empêche pas de pouvoir imaginer dans quelles circonstances ces choses-là se sont passées. Regardez ce que nous dit ce passage. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Ce passage nous dit le dernier jour de la fête. Alors, ce n'est pas au hasard, hein. Quand il est dit le dernier jour de la fête, c'est parce que le Seigneur voulait, par son message, rendre un message, donner un message percutant, impactant, afin que certains, tous ceux qui étaient là, puissent réfléchir 30 secondes. Donc, le dernier jour de la fête. En fait, c'était le 8e jour de la fête des tabernacles. Et il y avait cette promesse, il y a différentes fêtes que Dieu avait instituées pour le peuple. Et là, c'était la fête des tabernacles pour qu'ils puissent se rappeler qu'un jour, ils ont été dans le désert. En fait, c'est ce qu'on a fait ce matin. On s'est rappelé au travers du pain et du vin qu'on a partagé, que nous-mêmes, nous étions dans le désert, qu'on était loin de Dieu, et que le Seigneur, par son action, est venu nous chercher là où nous étions. Alléluia. Donc, le 8e jour, la fête des tabernacles, il y a les paroles que Jésus va prononcer, il va les proclamer en disant qu'à un moment donné, il va y avoir le Saint-Esprit, et donc le Saint-Esprit n'était pas encore là parce que Jésus était là. On s'aperçoit que pour qu'il y ait la plénitude du Saint-Esprit, il fallait que Jésus soit glorifié. Cette nouvelle a été si exceptionnelle que Jésus va se tenir debout. Est-ce que vous l'imaginez? Des centaines, et peut-être des milliers, sûrement même des milliers de personnes qui sont là, venir faire un acte religieux. Jésus vient avec un message percutant. Et comme ce message, il est percutant, il va se tenir debout. Ça peut nous sembler encore une fois anodin. Sauf qu'à cette époque-là, tous ceux qui enseignaient assis. Et Jésus, lui, va se tenir debout pour que ceux qui étaient au loin puissent entendre ce qu'il avait à dire. Ça nous parle d'un point culminant des discours du Seigneur durant cette fête. Il va venir avec ce message. Il dit, mais si quelqu'un a soif, finalement, quand il dit ça, il s'adresse à tous. Parce que l'être humain vit assoiffé. Et comme il y a cette soif qui est dans son cœur, il essaye d'étancher cette soif par tout ce qu'il peut trouver donc à droite et à gauche. Et ça peut faire, quand on ne prend pas la bonne, je le dis comme ça, hein, la bonne boisson, alors il peut arriver des catastrophes dans certaines vies. Le cœur de l'homme a un vide en forme de Dieu. Et donc il est toujours en quête. Et donc c'est de cette soif dont il est parlé ici. Hein. Et le Seigneur, quand il dit, si quelqu'un a soif, en fait, il s'adresse à tous. Et c'est un message qui percute les cœurs. Et c'est le point culminant. Qu'il vienne à moi. Dites-moi, il faut le dire, ces paroles. Qu'il vienne à moi. Il ne dit pas qu'il vienne à une religion. Qu'il vienne à une dénomination. Alors évidemment, hein, il y a, je le répète souvent quand je parle de religion, souvent on a réduit certains mots de façon péjorative quand on les interprète. Et quand on dit, par exemple, la religion, de suite, ça a une connotation négative. Alors que religion, dans son sens initial, c'est être relié. Mais on comprend que ce mot, il a perdu, en fait, toute sa force. Et dans cette religion, donc être relié ensemble, donc Jésus est en train de dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, pas à une religion, pas à une dénomination, même si dénomination, de s'unir ensemble sous les mêmes choses que l'on croit pour aller de l'avant, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Finalement, c'est pas simple. Ça paraît simple, hein? Mais en fait, c'est ce message-là qu'on veut encore annoncer. Si quelqu'un a soif, si tu as soif d'une vie meilleure, si tu as soif de plus du Seigneur, alors il faut venir au Seigneur. Si tu as soif de retrouver finalement un sens à ta vie, il faut impérativement venir au Seigneur Jésus, pas une religion. Quand il dit ça, le Seigneur, c'est-à-dire, il est en train de dire qu'il vienne à moi pour avoir cette relation, ce cœur à cœur avec lui. Et donc qu'il vienne à moi et qu'il boive. Point culminant des discours du Seigneur, on voit au travers de ces paroles, la solennité des paroles est accentuée par deux faits. Jésus se met debout, donc il crie, et cette eau, elle a une représentation à ce moment-là. Parce qu'en fait, sans cette eau, une chose est certaine, c'est que l'âme, elle meurt. Et pour que l'âme vive, on a besoin impérativement de boire l'eau que nous donne le Seigneur, qui est évidemment lui-même. Ceux qui n'ont pas soif, finalement, sont déjà morts. Si on n'a pas soif du Seigneur, et une fois qu'on a bu au Seigneur, et davantage du Seigneur, alors ça veut dire peut-être qu'on est dans un processus de mort. On a besoin de retrouver la vie. Alors, dans le contexte de ces paroles, on a absolument besoin de rappeler que c'était une tradition, hein, à ce moment-là. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était donc le huitième jour de la fête des tabernacles. Et durant les sept premiers jours de la fête des tabernacles, il y avait un cortège quotidien qui allait, après les sacrifices du matin, chercher de l'eau à la fontaine de Siloé dans un vase d'or et il revenait au temple. Et ça, il le faisait année après année. Et l'eau était versée en même temps que du vin sur l'autel en souvenir du rocher frappé par Moïse dans le désert. C'était dans ces circonstances-là. Hein. Tandis que la foule chantait, alors c'était le chant, « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Ce verset, ce passage, on le trouve dans Ésaïe, chapitre 12, verset 3. Et donc, au huitième jour, il n'y avait pas d'eau qui était apportée. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Jésus ne va pas venir le sixième jour, le quatrième jour, ou même le septième jour. Il va venir avec ce message le huitième jour, le jour où on n'apportait pas de l'eau. Et donc il vient en disant que Donc, il n'y a pas d'eau qui t'a porté depuis le temple. Désormais, il est en train de dire que la source de la vie, c'est lui. Alors, ce message, il faut l'annoncer, hein, parce qu'il y avait évidemment il y avait des risques. Les pharisiens étaient là, eux poursuivaient un but. Hein, c'était de faire taire cet homme qui s'est levé à un moment donné et qui allait à l'encontre de leur religion. Et le Seigneur va continuer en disant, « Celui qui croit en moi, si on franchit le cap, si on boit, donc à la source que le Seigneur nous donne, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Alors la question, elle est celle-ci. Mon frère et ma sœur, est-ce que les fleuves d'eau vive coulent dans ta vie? Parce que s'il y a des fleuves d'eau vive, ça va ramener automatiquement la vie. La puissance également, hein, quand on voit ces flots aujourd'hui plus que jamais, hein, vous avez vu encore cette semaine, hein, aujourd'hui, dans n'importe quel endroit de la France, personne n'est épargné. Dès qu'il pleut, y a des inondations qui sont là. Et moi-même, je le disais à quelqu'un en 99, dans la ville où j'étais, j'ai pu assister à la force de l'eau. 1 mètre d'eau dans l'église. On était en pleine mission d'évangélisation. 1 mètre d'eau dans l'église. Bon, on a continué. Sûrement, on a pris des risques. Mais le Seigneur nous a protégés. On a continué donc à faire de l'évangélisation, à continuer la mission. Mais j'ai vu à 4 heures du matin, dans le centre-ville de la ville où j'étais, la force de l'eau. Ce bouillonnement d'eau qui était là. Je vous promets que c'est impressionnant. On peut être courageux tant qu'on veut. Mais de se dire, voilà, de voir cela, c'est quelque chose qui marque. Mais en tout cas, tout ça pour dire que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. C'est que la vie, alléluia, ce bouillonnement pour le Seigneur. Finalement, c'est ce qu'annonçaient les visions de Zacharie. Si vous lisez le livre de Zacharie et d'Ézéchiel, il est parlé également de ces fleuves d'eau vive qui montrent que l'eau sortait du temple. Et cette eau, elle est régénératrice. Elle apporte la vie. Regardez Ésaïe 58, verset 11. Je sais qu'il y a au moins une personne qui a lu récemment Ésaïe 58. Et parce qu'on était dans cette semaine, dans un temps de jeûne et prière. Mardi soir, hein, on a partagé sur Ésaïe 57. Et Ésaïe 58, il nous a parlé du véritable jeûne. Hein, donc, et ici, Ésaïe 58, verset 11, il dit « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasira ton âme dans les lieux arides. » On dirait que c'est contradictoire ici, hein? C'est un paradoxe. « Il rassasira ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Amen. Et là, le secret, en fait, il est là. C'est que la source d'eau, elle ne doit pas tarir. L'invitation de Jésus, elle est claire. C'est en lui et auprès de lui que nous pouvons vivre des temps de rafraîchissement. Alléluia. Vous savez, à un moment donné, j'ai commencé par ça en introduction, vous dire qu'on est souvent ballotté par les épreuves de la vie, souvent en difficulté. Et ce que procurent ces choses-là dans nos vies, c'est de nous isoler. C'est la dernière chose à faire, finalement. Mais c'est la nature, c'est de se mettre à part et de s'isoler, des fois pour se plaindre, des fois pour dire « Seigneur, je ne comprends pas ». Alors que le Seigneur nous dit, au contraire, « Rapproche-toi de moi parce que j'ai quelque chose à te dire, j'ai une protection à t'accorder ». Et c'est la réaction que nous devons avoir chacun d'entre nous. Donc l'invitation de Jésus, elle est claire, c'est en lui, auprès de lui, que nous pouvons vivre des temps de rafraîchissement. Nous l'avons expérimenté à maintes reprises. Hein. Des moments, on traversait des déserts, des endroits où c'était aride. Hein. C'était donc une image pour dire qu'on traversait des situations difficiles. Et quand nous nous sommes approchés de lui, il nous a inondés, alléluia, de cette eau. Amen, qui a rafraîchi notre vie et on était prêts à repartir. C'est ce que fait le Seigneur. Hein. Il ne nous visite pas quelques instants juste pour que de suite après ça retombe, mais pour que ça perdure. Le rafraîchissement vient lorsque nous servons. Encore une fois, c'est un peu un paradoxe. Il faut dire que, quand on parle de service, l'être humain préfère être servi plutôt que de servir. Ça, c'est dans la nature humaine. Et le Seigneur va nous laisser un exemple. Ce matin, on l'a partagé dans un temps de prière, et je le lisais également ce matin. Le Seigneur dit, vous savez, ses disciples, ils nous ressemblent. Ils étaient en train d'avoir une discussion pour savoir qui était le plus grand. Ils nous ressemblent, qui est le plus grand, qui prie le plus, qui vient à plus de réunions, qui ceci, cela. Bon, ça c'est, ben voilà, c'est le cœur de l'homme qui est comme ça. Le Seigneur va venir pour leur donner un exemple. Ils ont pris une leçon magistrale. Il dit, en fait, celui qui va être le plus grand, qu'il soit trouvé le plus petit. Et le Seigneur ne va pas s'arrêter à dire des paroles. Il va mettre des actes à ses paroles. Il va aller voir les disciples. Il va leur dire, ben voilà, je vais, notamment Pierre, je veux te laver les pieds. Alors on comprend la réaction de Pierre. Non, surtout pas. Surtout pas. Et quand tu vas lui dire, mais il est préférable, hein, il dira non seulement les pieds, mais encore la tête, parce qu'il va avoir une révélation. Alléluia. Quel bel exemple de pouvoir servir. Et on peut être rafraîchi tout en servant le Seigneur. Alors qu'en général, ce n'est pas dans ce sens-là. Quand on manque de rafraîchissement, c'est comme ça que je le dis, mais on pourrait dire, frère, ou aller voir un responsable d'activité pour lui dire, je prends un peu de recul. Alors que le Seigneur nous exhorte encore de continuer à le servir. Et en le servant, il va y avoir à un moment donné des temps de rafraîchissement. Alléluia. Est-ce que vous savez que par exemple, rafraîchissement et onction ont la même signification? Et quand on parle d'onction, on parle de quelqu'un, de ministère, il y a une onction particulière. Quand on parle d'onction, c'est quelqu'un qui est rafraîchi. C'est pour ça que le lien, il est là. L'onction vient lorsque l'on sert. Quand on sert le Seigneur, lorsqu'on est en action, lorsqu'on est en service, alléluia. Rappelez-vous donc que dans ces deux versets qu'on a lus en introduction, d'Actes chapitre 3, au préalable, Pierre et Jean, ils montaient au temple. Et moi je rajoute comme d'habitude en fait. Comme ils avaient l'habitude de faire. Mais il va y avoir un moment particulier. Alors qu'ils vont servir, parce qu'ils vont prier le Seigneur. Eux, qui viennent de vivre quelque chose d'extraordinaire, vous remarquez qu'ils ne se coupent pas. Ils vont au temple. Alors que dans le temple, il y a encore cette religion qui est là, qui tient certains qui sont là. Et donc, Pierre et Jean montent au temple. Et pendant qu'ils montent au temple, ils vont vivre une expérience extraordinaire. Qu'est-ce que cela nous montre? Cela nous montre que pendant qu'on est en train de servir, on peut vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur et ça va procurer un temps de rafraîchissement. C'est les mêmes hommes qui, à un moment donné, sont partis. Jean est un peu resté pendant la crucifixion de Christ. Ces mêmes hommes vont donc à la réunion de prière. Je ne sais pas si c'était mardi soir à 19h30. En tout cas, ils vont à la réunion de prière, et pendant qu'ils vont à la réunion de prière, ils remarquent là un homme qui est sur le côté, qui était boiteux de naissance. Je pense que cet homme était là depuis quelque temps, et qu'ils étaient déjà passés devant lui. Mais ce jour-là, un jour particulier, alors qu'ils sont en train de servir le Seigneur, une action de Dieu, cet homme est guéri. Et ils vont dire ces paroles qui sont extraordinaires, hein. Ce que j'ai, je te le donne. C'est ça le service de chaque croyant. Et ça, c'est l'onction. Quand on remarque également que ce même homme, donc Pierre, son ombre guérissait les malades. Si aujourd'hui, ça se passait, on serait perturbé, non? Essayons d'imaginer quelqu'un qui est là, à un moment donné, une action du Seigneur, puis... Un frère qui se lève et puis qui se met là avec un relief, l'ombre qui est là, on fait le tour, on passe devant l'ombre, on est guéri. Celui-là, ça vient de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans cette église? Eh oui, parce que tout ce qui n'est pas habituel nous dérange en fait. Mais là, c'est une action du Seigneur. Donc, l'ombre de Pierre qui guérissait les malades, et ça, c'est sûr, ça a procuré un renouvellement dans leur vie et un rafraîchissement. Quand on voit des choses, quand on expérimente des miracles, le miraculeux du Seigneur, c'est sûr que ça va rafraîchir nos vies. C'était tellement logique. Mais quand on parle d'onction, finalement, si je vous posais la question, c'est quoi l'onction pour vous? On aurait sûrement des réponses différentes. L'onction, c'est simplement un revêtement spirituel spécifique, un principe actif de l'Esprit-Saint, une certaine habilitation concernant un domaine particulier pour une mission précise. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais chaque croyant ici-bas sur terre qui a confessé le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui a fait cette rencontre avec le Seigneur, est en mission. Nous sommes tous en mission. Aller par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle et enseigner-leur. Alors, l'onction, donc, c'est donc un revêtement spirituel spécifique pour une mission précise. Mais quand on parle d'onction, dans l'Ancien Testament, c'était un revêtement, et c'était, ça servait, donc c'était, on appelle ça l'huile d'onction, et ça servait à la consécration de certains ministères. Et en étudiant la composition de cette huile d'onction, vous vous rappelez, hein, David, le jeune David, donc Samuel va venir, hein, il va l'inonder de cette huile. Et cette huile était spéciale. Alors, c'était pas... Nous, peut-être, on aurait pris, je ne sais pas, de la végétale, de l'arachide, de... Mais là, on ne pouvait pas faire autrement que ce que Dieu avait commandé. Et quand on regarde la composition de cette huile d'onction, on ne peut qu'être émerveillé. Elle était composée avec une première aromate, la myrrhe. La myrrhe servait à sentir bon. Le croyant doit sentir bon. Sentir l'odeur de Christ. La bonne odeur de Christ. Et vous savez, plus on passe de temps dans la présence de notre Seigneur, plus on sentira l'odeur de Christ. Ça, c'est une réalité qui est là. Donc, la première aromate, c'était la myrrhe, qui était parfumée et pour sentir bon. La deuxième aromate, c'était le cinnamome aromatique, dont le feuillage reste toujours vert. On a tous connu certaines personnes qui ont bien commencé, puis qu'à un moment donné, ils se sont desséchés pour qu'au fil des temps, il ne reste plus rien de ce qui avait été commencé. Donc vous voyez, déjà au travers de ces aromates, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être toujours vert. On l'avait vu il y a quelques dimanches. Pour rester toujours vert, il faut être à un endroit précis. Et il faut être près des eaux, comme dit le psaume 1 et Jérémie 17. Que le Seigneur nous garde donc de rester là pour être toujours vert. Que c'est beau, un frère et une sœur qui donc ont donné leur vie au Seigneur. Et plus le temps avance, plus ils s'affermissent et ils sont toujours verts. Alléluia. Ça réjouit les cœurs. La troisième aromate, c'était le roseau aromatique. Et là, ce roseau, il était utilisé pour cicatriser les blessures. La vie nous inflige des blessures. Et donc, quand il y avait cette onction, c'était également pour cicatriser les blessures dans les cœurs. Je dis ça parce que, en fait, il y a des fois dans nos vies, certaines personnes continuent à avancer dans leur marche, mais leurs blessures n'ont pas été guéries. Et vous savez que quand les blessures ne sont pas guéries, ça va ressortir à un moment donné. Certains, alors encore ici, on n'a pas encore été confronté à ça, mais je me souviens notamment d'une personne, on lui disait bonjour, ça dépend comment elle était lunée, ça prenait une ampleur, on aurait dit qu'on l'avait agressée, qu'on avait dit quelque chose de mal, mais en fait le Seigneur nous apprend à voir au-delà. Et dans son cœur, après pour en avoir discuté, avoir prié avec cette personne, On s'est aperçu qu'elle était en manque d'amour, une enfance terrible. Je passe ici les détails. Une enfance terrible. Donc il y avait une conséquence à ça. Et quand on vient au Seigneur, quand il y a cette huile d'onction, alors ce roseau aromatique, ce troisième aromate, utilisé pour cicatriser les blessures. Nous devons impérativement, si nous voulons vivre des temps de rafraîchissement, se laisser guérir par le Seigneur. Venir dans la présence de notre Seigneur et dire, Seigneur, je reconnais qu'il y a quelque chose dans ma vie, quelque chose qui me bloque, quelque chose qui m'empêche d'aller de l'avant. Seigneur, je veux te permettre de me guérir. Et vous savez, quand on prend et quand on opte cette attitude, c'est là où le Seigneur, il intervient de façon miraculeuse. Je l'ai vu à tellement de reprises. Alléluia. Et la quatrième aromate, c'était l'acace. Ce n'était pas l'acace auto, c'était l'acace ou le casse utilisé comme purgatif pour purifier. Parce que le Seigneur, ce qu'il fait, c'est qu'il est venu pour purifier nos vies. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien d'impur qui peut s'approcher et rentrer dans la présence de Dieu. Et le Seigneur, lui, donc, par son ministère, il est venu pour donner sa vie et de nous purifier. Alléluia. Et quand on se présente devant le Seigneur nous voit comme purs. Dites-moi, ça, c'est pas extraordinaire, ça? De se dire, mais le Seigneur me voit pur. Mais pur comment? Il me voit pur comme Jésus. Ça nous dépasse encore. Alors, nous voulons goûter à ce privilège. Alors, voyez, quand on parle d'onction, on parle de ces aromates, la composition de l'huile d'onction. Et la question, évidemment, vous le savez maintenant, hein, il faut que la prédication, elle soit pratique. Comment recevoir l'onction de la présence de Dieu? Rien de révolutionnaire, simplement un rappel. L'adoration. Adorer le Seigneur. Tous les chants ce matin étaient orientés vers le Seigneur, à l'adorer, alléluia. Finalement, c'est ce qu'il y a dans nos cœurs, hein, on l'exprime au travers de chants, au travers de la musique, et Dieu nous donne ce moyen finalement qui est simple, adorer. Certains vont dire, mais moi, je n'ai pas reçu ce ministère, je laisse ça aux autres. C'est faux. On a tous été créés pour adorer. Tous. On a cette capacité. D'ailleurs, on le fait. Mais on adore des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Adorer, c'est simplement dire du bien. C'est dire ce qu'une personne a fait. Et ce matin, c'est ce que nous avons fait. Donc l'adoration n'est même pas un style, mais c'est une relation avec Dieu. Quand on a une relation réelle et profonde avec le Seigneur, alors quand nous serons ensemble, on n'aura pas trop de difficultés à adorer et à louer le Seigneur. Moi, je bénis le Seigneur parce qu'on a vécu des moments au travers de mon ministère, du service avec le Seigneur, dans des réunions où, à un moment donné, c'est comme si le Seigneur, c'est pas comme, c'est le Seigneur, il dit, bon, maintenant, c'est moi qui prends la situation et le contrôle de la réunion. Alléluia. Et là, quand ça se passe, on ne regarde plus l'heure, on ne se soucie plus de la fameuse pizza qu'on a oubliée, ou les clés, donc ça c'était pour hier, pour les jeunes, ou le poulet qui est en train de rôtir. En fait, à un moment donné, on est là dans la présence de Dieu, et on soupire à ce que le Seigneur puisse venir nous visiter. Amen. Et dans l'adoration, finalement, c'est l'expression de notre amour. L'adoration est un ministère, quand on parle de ministère, attention, hein, que ça ne nous fasse pas enfler les chevilles. Ministère, c'est simplement être au service. Et je vous ai dit tout à l'heure comment il faut servir. Être le plus petit, afin que nous rendions toute la gloire à notre Seigneur. Recevoir l'onction dans l'adoration. Alléluia. Mais également, l'huile, elle doit être renouvelée. L'huile, vous le savez, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et on a besoin constamment d'être renouvelé. Psaume 92, verset 11. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Alors, j'aurais pu commencer ce message en vous disant « Bonjour les buffles ». Alors, je ne l'ai pas fait. Hein. Vous l'avez remarqué. Parce qu'on veut agresser personne. Mais en tout cas, il est en train de comparer, il dit, sûrement il a cette image, le psalmiste, en disant, mais voilà, il pense au buffle, il dit, mais tu me donnes cette force-là. Tu me donnes la force du buffle, et comme tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé, et l'huile, elle est comment?
Elle est fraîche.
Elle a été renouvelée. Alors nous avons besoin, j'ai besoin sur ma vie, d'un renouvellement de l'onction, et chaque jour, être constamment renouvelé. Car l'onction d'hier, si on la garde, on va prendre le risque de ce qu'elle devienne rance. Et des chrétiens rance, il n'y a pas plus laid hein, et plus terrible. Hein, c'est, parle tout, souvent hein, bloqué en 1900 et quelques. Je me souviens, alors évidemment que personne ne se sente offusqué, merci Seigneur hein, pour ce que le Seigneur a fait, évidemment, hein, dans un certain temps. Mais certains sont comme bloqués. Je me souviens, là je pense là, spontanément à une sœur, on connaissait toute son histoire par cœur. Hein. Je me souviens, en 1984, je pouvais dire le mois, l'heure, hein, et elle, à chaque fois qu'elle me voyait, elle se sentait obligée de me parler de 1984. Et moi, j'avais qu'une seule envie, c'est de lui dire, mais là, en 2000 et quelques, ma sœur, qu'est-ce que tu vis? C'est quoi ta relation avec le Seigneur? Vous voyez, elle se contentait de cette huile d'une certaine époque. Alors, merci Seigneur pour ce qu'il avait donné. Mais attention à ne pas devenir rance, âpre, acerbe, acide. C'est ça, hein? Mais une huile renouvelée et fraîche, agréable et pleine de vertu. L'onction de la présence de Dieu, elle est créatrice. Parce que l'onction crée un esprit de service. Quand on a l'onction, on sert. Et cet esprit de service, le Seigneur s'attend à ce que chacun d'entre nous, nous puissions l'exprimer. Alors les services sont différents. Celui qui ne peut pas se déplacer, par exemple, à la réunion de prière, et qui prie chez lui, ben, il est en train de servir le Seigneur. Par contre, celui qui se dit, bon, voilà, aujourd'hui, je peux aller à la réunion, mais je reste à la maison, je choisis de rester à la maison parce que je suis fatigué, ou comme le disent certains jeunes aujourd'hui, la flemme. C'est là où en fait, il y a un souci. Hein. Donc l'onction va donner un esprit de service. L'onction crée le zèle. L'onction crée l'équilibre. On a besoin de stabilité. On a besoin d'équilibre. Souvent, les fois dans la vie de certains croyants, là où ça ne va pas, c'est quand il y a du déséquilibre, à tous les niveaux, hein, positif comme négatif. L'onction crée un bien-être incomparable. On n'a besoin de rien. En lui, j'ai tout trouvé. Hein, non, il n'existe pas. Un amour si grand, si puissant, nous dit ce verset. L'onction qui porte un fruit dans nos vies. Alléluia. Le psaume 89, verset 19. Nous dit ceci, car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. On voit ici que le Seigneur, il y a une protection pour ceux qui sont dans cette onction renouvelée. Verset 20, il y a cette élévation et cette autorité. Alors tu parleras dans une vision à ton bien-aimé, tu diras, j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai enlevé du milieu du peuple un jeune homme. Alléluia. Verset 22, être soutenu par la main de Dieu. L'onction de Dieu, c'est nous donne d'avoir la force de Dieu. Verset 22. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Alléluia. Verset 23, c'est être protégé. Et on a besoin de protection parce qu'il y a un adversaire qui est là, hein, qui va essayer de nous atteindre. Il y a la protection du Seigneur. Et donc, et après, la victoire de Dieu sur les adversaires, c'est le verset 24. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Voilà ce que fait l'onction. L'onction, quand on parle d'onction, donc on a vu ensemble comment l'acquérir. Mais finalement, à quelle quantité? Combien d'onction il faut? Combien d'onction le Seigneur nous donne? Deux versets dans les psaumes. Les deux, vous les connaissez, c'est sûr. Psaume 133, verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête. Elle descend sur la barbe sur la barbe d'Aaron qui descend sur les bords de son vêtement. Vous le voyez, Aaron couvert de l'huile. C'est l'abondance. C'est cette huile-là, l'onction avec abondance. Il ne s'agit pas seulement de quelques gouttes sur le front. Des fois, ça nous arrive que certaines demandent l'onction d'huile. Ça, c'est la petite parenthèse. Je profite pour vous dire, si quelqu'un a besoin d'onction d'huile, il faut au préalable venir me voir pour qu'il y ait une préparation. En fait. À un moment donné, j'avais été effaré. On aurait dit qu'on se retrouvait au rayon charcuterie où quelqu'un avait demandé, je m'explique, hein, quelqu'un avait demandé l'onction d'huile et puis les frères et sœurs venaient les uns derrière les autres. En fait, c'est pas ça. Hein. Une préparation au préalable. Et de celui qui va venir, qui demande, et puis de celui qui prie. Hein. Donc, si quelqu'un a besoin de l'onction d'huile, il faut le dire, comme ça, on prépare ces moments-là. On veut le faire, évidemment, sérieusement. Alléluia. Donc, il ne s'agit pas de quelques gouttes sur le front, mais d'une mesure abondante qui se répand. Ou, d'abord sur la tête, le siège des pensées. L'onction va couvrir les pensées sur le visage et sur les bords du vêtement. En fait, l'être entier. Et puis, le dernier verset, c'est le fameux psaume 23, verset 5. « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. » On remarque ici qu'on a changé le cas, hein. Et pas à côté. « En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et alors ma coupe, elle déborde. » Est-ce qu'un jour vous êtes posé la question, pourquoi elle déborde la coupe ? Afin d'impacter les personnes qui sont autour de moi. C'est aussi simple que ça. Et si notre coupe, elle déborde, alors il y aura une répercussion sur les gens qui m'entourent. C'est dans ce sens-là où il est dit, toi et ta famille. Parce qu'il y a cette opportunité que, et notre responsabilité qu'une fois que la coupe, elle déborde, alors elle va toucher les membres de notre famille. Ce n'est pas une formule magique, hein. Certains ont cru, hein. Seigneur, tu as dit, toi et ta famille, vous serez sauvés. Et puis, il n'y a pas de cadre dans les familles. Chacun fait ce qu'il veut. On n'enseigne pas les enfants comment ils doivent être enseignés. Et puis, on s'attend à recevoir un résultat. C'est pas ça, hein. C'est moi-même, j'ai une responsabilité. Laissez le Seigneur me oindre d'huile pour que ma coupe déborde, afin que les gens que je côtoie soient impactés par, je le dis comme ça, ce débordement de l'huile d'onction. Alléluia. Alors, je vous invite cette semaine à prendre du temps, individuellement. À dire, Seigneur, j'ai besoin d'être rafraîchi. On aurait pu faire un appel, venir ici, sur le devant, prier les uns pour les autres. Mais je crois que le Seigneur conduit également à nous responsabiliser. À ce que chacun puisse faire sa part. Et dire, à un moment donné, je prends le portable, je l'éteins ou je le pose loin de moi. Parce que vous avez remarqué, quand vous avez décidé de prendre du temps pour le Seigneur, il y aura toujours quelque chose pour venir vous perturber. Vous l'avez remarqué, ça? Oui. Eh oui. Hein. Donc, cette semaine, prenez du temps. En disant, Seigneur, viens me rafraîchir. Alléluia, et tout ce qu'on a vu. Et puis, quand on est rafraîchi, il y aura un impact qui sera probant dans nos vies. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole, merci pour ta grâce et merci pour ton amour, Seigneur. À quel autre irions-nous qu'à toi, Seigneur? Tu as les paroles de la vie et les paroles de la vie éternelle. Seigneur, ce que tu veux nous donner, c'est des vies, Seigneur, rafraîchies par l'onction de ton Saint-Esprit. Seigneur, je veux te prier pour que tous ceux et celles qui sont rafraîchis puissent continuer de l'être, qui puissent être constamment renouvelés. Seigneur, également, je veux te prier pour ceux et celles qui, ça fait quelque temps, Seigneur, qui n'ont pas été rafraîchis. Seigneur, touche leur cœur, touche leur vie, qu'il y ait une décision de leur part, Seigneur, de se lever, de venir dans ta présence, afin d'être à nouveau rafraîchis. Et Seigneur, tu lis dans ta parole, parce que c'est une promesse que tu nous laisses. C'est que tu vas, Seigneur mon Dieu, faire couler sur notre tête, sur notre visage, sur tous les vêtements, Seigneur, cette huile d'onction dont nous avons besoin, Seigneur, afin de te trouver frais pour la gloire de ton nom, Seigneur mon Dieu. Et c'est à cela que nous verrons des grandes choses dans nos vies. Nous bénissons et nous glorifions ton nom. Que personne ne laisse tomber à terre, Seigneur mon Dieu, ces paroles qui ont été annoncées, mais chacun puisse les garder fortement dans leur cœur. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour que dans la semaine qui arrive, tu puisses utiliser, Seigneur, nous utiliser, utiliser mes frères et sœurs, Seigneur mon Dieu, pour qu'ils soient, Seigneur mon Dieu, ces agents du ciel, Seigneur, ceux qui se soucient des uns et des autres. Seigneur mon Dieu, que tu puisses te glorifier dans leur vie, dans leur famille, dans leur foyer. Et à ton nom seul, nous voulons donner toute la gloire. Merci, ô notre Dieu. Amen.